cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 18 mai 1994.
Toujours ces deux aspects. individuel, le moine particulier, c'est universel. Et la relation constitue les deux. L'amitié, c'est une relation personnelle. Et c'est réel. Mais c'est assez délicat. C'est du cristal, l'amitié. Et si vous n'avez pas un certain sens du cristal, si vous croyez que c'est une matière synthétique, vous cassez tout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi il y a tant d'amitiés qui avortent? Comment se fait-il que dans la région parisienne, la moitié des mariages, au bout de quelques années, fichu, ça prouve que l'homme est incapable de garder du cristal et qu'il aime mieux des matières synthétiques. Alors les matières synthétiques, c'est pour les divorces. Vous comprenez bien. Parce qu'il n'y a pas l'affinement de l'intelligence qui respecte une personne. Puisque quand c'est une matière synthétique, ça change, ça se fait en série. Le cristal, non. On fait une pièce. J'ai trouvé admirable à Genève, avec ces artistes qui sont de vrais artistes. Ils ont répété 32 fois une pièce Antigone pour la jouer une fois. Et puis c'est tout. Ça, c'est du cristal. C'est pas une matière synthétique, je vous affirme. Ça, c'est le sens de la qualité. Ça, c'est... Eh bien, l'amitié, c'est la relation qui se fonde sur la qualité. Se fonde sur quelque chose d'extrêmement particulier, cette cognonia. Mais c'est fragile. L'universel, c'est justement ce qui fonde la série. C'est tout à fait différent. Mais des deux côtés, c'est la relation. Et puis vous avez la substance. La substance, ce qui subsiste en soi. La relation, ce qui est tout entier, tourné vers l'autre. Ad. La relation m'aide à mieux comprendre la substance. Puisque d'une certaine manière, c'est l'ultime influence de la substance sur la relation. La relation ne peut pas se comprendre parfaitement sans la substance. C'est pour ça que les philosophies qui nient la substance et qui remplacent la substance par la relation ne peuvent plus saisir l'être. Une philosophie qui a découvert la substance et qui ensuite essaie de comprendre ce que c'est que la relation. Ah, il y a quelque chose de nouveau que je comprends. Après la relation, pour connaître bien la relation, je vois que je suis obligé de regarder son fondement. Et son fondement, c'est la qualité. Et donc, on voit tout de suite, qu'est-ce que c'est que la qualité ? Et puis ensuite, on verra que nos qualités sont des qualités sensibles et des qualités spirituelles. Et les qualités sensibles se fondent sur la quantité. Vous voyez, on voit l'extrême de la substance, puis les fondements. Pour que vous compreniez bien l'ordre que nous prenons. Parce que c'est toujours très important, pour toute l'intelligibilité, de comprendre l'ordre. Ce qui est sûr, c'est qu'ayant vu la substance, on a besoin de voir ce que c'est que la relation. Il y a besoin très impératif. Comprenez bien, l'amitié, si on ne comprend pas ce que c'est que la relation, on ne comprend pas ce que c'est que l'amitié. Or, la philosophie éthique, notre philosophie morale, se fonde sur l'amitié. Pourquoi la plupart des personnes ne comprennent pas? C'est qu'au fond, ils n'ont jamais compris ce que c'est que la relation. Ce qui est si délicat dans la relation. Ils ne comprennent que les choses qui sont en série. Vous savez bien que la plupart du temps, c'est comme ça qu'on dit qu'une chose capable de la répéter, de la refaire. Si on ne la refait pas, sinon ça ne va pas rien. Et c'est extraordinaire, parce que c'est juste l'inverse de l'art, René. L'art, réaliser une œuvre, une fois, c'est parfait. Alors évidemment, si c'est raté, c'est embêtant. On recommence, parce que si c'est raté, ce n'est pas une fois, c'est nul. On jette le vieux pneu, puis on en met un nouveau. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, il faut bien comprendre ce que représente cet esprit de finesse de la métaphysique qui atteint les choses dans leur originalité propre. Il faut toujours comparer, voyez dans quel sens saisir ces deux extrêmes de ce qui est la substance qui pour nous est l'âme, la relation qui pour nous est l'amitié. Alors vous comprenez ces deux extrêmes merveilleux, l'âme qui est substance, et je dépasse la connaissance de l'âme pour saisir la substance, et je dépasse ce qu'est l'expérience de l'amitié pour saisir ce que c'est que la relation. L'amitié, c'est une expérience affective, éthique, puisque c'est là où naît ma responsabilité. Évidemment, celui qui n'a jamais fait l'expérience de l'amitié, et il y a beaucoup d'êtres aujourd'hui qui n'ont plus fait l'expérience de l'amitié, ne comprennent pas. Alors pour eux, ils se relèguent à Kant, l'impératif catégorique. Vous savez, quand quelqu'un est enfoncé dans l'impératif catégorique, il n'y a plus moyen d'en sortir. C'est vrai, plus moyen. Kant est très fort. En Allemagne, actuellement, d'après ce que me disait le professeur d'éthique à Fribourg, en Allemagne, toute la droite conservatrice allemande, c'est Kant. C'est du propre. C'était Descartes, tout analogue. Et on voit ce que ça fait. Hein. C'est très important de comprendre ça, parce que ce sont les idées, vous savez, qui gouvernent. Il ne faut pas croire du tout. Et c'est la métaphysique. Si votre intelligence n'a jamais pénétré en métaphysique, vous construisez sur du sable. Le pantareil, tout coule. Si vous saisissez la substance et l'âme. Ah, il y a quelque chose de stable dans l'ordre de l'être que vous saisissez. C'est pour ça que c'est si important de saisir la substance. C'est pas du temps perdu. C'est que votre intelligence enfin mais un jour il faut lire Hamelin. C'est le Hegel français. Et on voit ce que c'est, ce que ça représente. C'est très intéressant. Et c'est la relation qui est au cœur de toute sa philosophie. Et la substance disparaît. La relation peut très bien être le noyau fondamental d'une philosophie. Je vois alors que ces philosophes ramènent l'être à la relation. L'être, alors, il a maigri énormément. Il a maigri, c'est tout juste. Il ne peut pas se tenir debout tout seul. Alors, il a besoin toujours de l'autre. Il est terriblement indigent. Quand on va étudier maintenant la qualité, on va se poser la question aussi, quelles sont les philosophies qui n'ont jamais dépassé la qualité? Alors ici, à titre d'hypothèse, de recherche, je crois Platon. Platon, c'est le philosophe de la qualité. Et parmi les modernes, Heidegger. C'est très très curieux ça. Ce sont des philosophes de l'art. Parce que l'artiste a un sens extrême de la qualité. Et alors ces philosophies qui n'ont jamais dépassé la qualité ramènent l'être à la qualité. Il y a quelque chose de plus fondamental que la relation, puisque la qualité est le fondement de la relation. Mais quelquefois c'est aussi assez lourd. Platon. Pratiquement, je crois qu'on peut dire que Platon n'a jamais dépassé la qualité. Il faut faire attention, il ne faut pas affirmer ça trop vite. Hein. Il ne faut pas l'affirmer trop vite. Mais quand vous regardez attentivement, vous voyez bien que tout se ramène à la qualité. D'où la dialectique. Alors vous avez une dialectique de la relation, vous avez une dialectique de la qualité. Et puis, en troisième lieu, on verra des philosophies qui n'ont jamais dépassé la quantité. C'est des philosophies attachées à la science. C'est des philosophies du positivisme. Ce sont des philosophies de la quantité, du mesurable, puisque la quantité, c'est le fondement du mesurable. C'est le divisible. Donc vous voyez, c'est très important pour nous, après avoir saisi autant que possible ce qu'est la substance, de comprendre relation, qualité, quantité, parce que ça nous permet d'avoir l'intelligence de ces philosophies idéalistes. La seule philosophie réaliste, c'est celle qui saisit la substance. Si vous ne saisissez plus la substance, nécessairement, ces philosophies de la relation, de la qualité, de la quantité, demeurent idéalistes, selon trois formes tout à fait différentes. Tout à fait différentes. L'idéalisme de la relation, c'est justement qu'on ne fait plus la distinction entre l'universel et le singulier de l'ami. Et on veut à tout prix que les deux unissent. En philosophie réaliste, je sais très bien que je ne ferai jamais identité entre le singulier, l'ami. Le seul singulier que vous saisissez parfaitement, c'est l'ami. Hein. C'est pas le petit caillou. Le petit caillou comme singulier, hein, c'est assez particulier, parce qu'à côté, il y a un autre petit caillou qui est tout à fait semblable. Alors, vous perdez ce petit caillou, mais vous en prenez un autre. C'est pas un drame. Vous perdez l'ami, hein. Difficile d'en trouver un autre. Donc ça montre bien que le singulier, le vrai singulier que vous saisissez, c'est l'ami. Et l'universel, fondement de toute la série. L'universel. Quand vous regardez l'animal, comme animal, il y en a beaucoup d'animaux. Ils sont différents d'espèces, mais ils sont toujours des animaux. On peut discuter sans s'étendre. Vous avez un petit chien que vous aimez beaucoup. Mais si on vous offre un autre petit chien, c'est un animal. Oui, c'est curieux, c'est très très intéressant de saisir les mentalités différentes du singulier et de l'universel. Et comprendre qu'en philosophie réaliste, on sait qu'on ne peut pas unir les deux. Ça, ça fait partie des limites de notre intelligence. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'intuition de l'être. Si j'avais l'intuition de l'être, quand je parle d'une intuition de l'être, comme Maritain, quand on parle de l'intuition de l'être, en réalité, on confond relation et être. Toute intuition porte sur une relation. Alors quand on dit intuition de l'être, c'est parce qu'on a confondu relation et être. Et en confondant relation et être, je ne peux plus distinguer la relation réelle de la relation de raison. Donc, je ne peux plus distinguer si je suis en philosophie réaliste ou en philosophie idéaliste. Les deux se tiennent. C'est pour vous montrer l'intérêt philosophique de l'étude de la relation, de la qualité, de la quantité. Et tout ça fait partie de ma personne. La personne humaine, c'est celle qui est capable de faire des relations. Elle est capable d'amitié. C'est quand même énorme. Et la personne humaine est capable de chercher la vérité en acceptant ce conditionnement, cette petite voie très particulière. Je dois passer par l'universel. Vous ne pouvez pas rejeter l'universel. Je dois passer par l'universel pour atteindre la vérité. Mais je dépasse l'universel, parce que l'universel, c'est une manière particulière de connaître. Ce n'est pas la réalité. La réalité n'est pas universelle, elle est singulière. Mais pour arriver à connaître la réalité de la manière la plus profonde, je dois passer par ce conditionnement. Et c'est pas drôle du tout. On voit très bien, certaines personnes n'aiment plus Bergson, refusent l'abstraction. Donc ils refusent l'universel. Alors ils s'enferment dans quoi ? Dans l'intuition. Et c'est très net, ils s'enferment dans l'intuition. L'intuition a l'immense avantage, c'est que je ne sais plus si c'est une relation réelle ou une relation de raison. Je ne peux pas distinguer. L'intuition de l'être. C'est très intéressant de voir ça. Parce que c'est le sommet de l'intuition. Est-ce que vous avez une intuition de l'être ? Ou est-ce que vous n'avez qu'une intuition esthétique et affective ? La perspicacité de l'intelligence, c'est cette intuition affective. Vous êtes en face de quelqu'un, où je ne peux pas avoir confiance à cette personne, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas, mais je ne peux pas avoir confiance. Impossible, impossible. Alors vous analysez intuition affective. À vous faire attention, parce que les gens très intuitifs, quelquefois, se trompent terriblement. Mais c'est intéressant de voir cela, parce que c'est notre vie, ça. Il faut savoir si on est intuitif ou pas intuitif, dans l'ordre esthétique, dans l'ordre affectif. Alors, entrons dans la qualité. Oui, c'est un domaine énorme. Si on voulait entrer à fond dans la qualité, il faudrait reprendre ici tout Platon. En interrogeant tout le temps Platon, c'est la qualité, la qualité, la qualité, la qualité. Et chaque dialogue de Platon montre un aspect particulier de la qualité. C'est très étonnant ça, et ça c'est très intéressant. Parce que c'est l'artiste. Platon est un artiste, c'est l'artiste de la philosophie, Platon. C'est le grand artiste de la philosophie. Il fait ça admirablement. Le démiurge de la métaphysique. Alors il est au niveau de la qualité, parce que si je suis vraiment métaphysicien, je ne suis pas démiurge. Je regarde, je reçois, j'écoute la réalité, toute réalité. Tandis que Platon a besoin de la faire. Et Platon n'est en repos que quand il s'est souvenu la réminiscence. La relecture fondamentale de la philosophie, la réminiscence. Quand j'étais dans un âge absolument pur, j'étais le condisciple des dieux. Je vivais en contemplatif. juste au purgatoire. Il suffit de regarder mon voisin pour dire oui, je suis au purgatoire. Je suis au purgatoire. Parce que l'être, c'est pas le visage de mon voisin. De mon voisin, mais non, c'est tout à fait différent. La beauté, c'est pas ça. Puisque pour lui, la beauté, l'être, ça s'identifie. Non, donc, c'est pas ça. C'est le purgatoire. Et j'attends le ciel. Et pour ça, il faut mourir, puisque nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et Platon dirait bien ça. Hein. Nul ne peut entrer vraiment dans la béatitude sans mourir. Alors, c'est important, vous voyez. C'est la qualité qui va me faire comprendre Platon. C'est la qualité qui va me faire comprendre Heidegger. Ce sont des philosophes de la qualité. C'est, ça a beaucoup de dignité. Hein. Parce que la qualité, c'est la dignité, c'est la noblesse. C'est quelque chose de très grand. Bon, alors, entrons. Première recherche. Je laisse le point de vue historique. Vous pourrez le retrouver dans le livre. C'est intéressant à voir, mais on n'a pas le temps. Alors, première connaissance de la qualité par le langage. Vous voyez, le langage est très très important pour des philosophies de la relation, pour des philosophies de la qualité. Pour des philosophies de la quantité. C'est très curieux, le langage est moins intéressant pour la philosophie de l'être, réaliste. Et le langage risque toujours, pour un philosophe réaliste, d'être un obstacle. Les mots. Combien de philosophes restent uniquement dans les mots? Combien de théologiens restent uniquement dans les mots? À cause de l'exégèse moderne qui s'est amplifiée et qui a ramené la théologie à la connaissance des mots, du langage. Donc, c'est très important pour une philosophie de la relation, pour une philosophie de la qualité, de voir dans le langage le miroir de la relation. Le langage est une série de relations. C'est une série. Les mots avec les autres. Et le poète, qui est un vrai poète, comprend ça admirablement. Puisque la matière sur laquelle il travaille, c'est le langage. C'est la matière sur laquelle il travaille. Et la relation, le langage me met donc constamment en contact avec ce que c'est que la relation. Et si je suis attentif, je vois que le langage me met constamment en présence de la qualité. Lisez n'importe quel article de journal et soulignez avec un crayon tout ce qui vous est dit sur la qualité. Quand on a un langage descriptif, on est très attentif à la qualité. Et mettre en pleine lumière des qualités. Et on invente même des mots nouveaux pour qu'on soit plus attentif à la qualité. On décrit. Quand vous voulez décrire ce que c'est que Pierre, mais vous décrivez avec des qualités. Pierre a tel ou tel habit, tel. Pierre était comme ça, Pierre se tient de cette manière-là. C'est tout ça, c'est des qualités. C'est la manière dont Pierre se manifeste à moi. La manière dont il est face à moi, près. luminosité étonnante. Et vous l'augmentez par la lumière. C'est extraordinaire de voir ça. De voir que la qualité, c'est la manifestation. Aujourd'hui, on parle de manifestation. On aime même de dire ça avec des termes qui sont simples. Manifestation, c'est trop long. Hein. Parce que la manifestation, c'est un flash. Très rapide. Il y en a même que ce soit comme ça. Mais c'est très vrai que la qualité manifeste. Elle manifeste. On ne sait pas très bien ce qu'elle manifeste, mais elle manifeste. Et plus la manifestation est grande, moins on sait sa signification. C'est très curieux, ça. Et c'est intéressant d'interroger des gens qui sont dans une manifestation. Et qu'est-ce que vous vivez là? Moi, je sais pas, je suis là parce qu'on m'a dit y être. C'est un tout. La qualité peut prendre un tout. Ça se manifeste en splendeur.
Généreux. Ça se voit pas. Quand vous dites que
Oui, ça c'est... les confusions du visible et de l'invisible. Il y a des qualités qui ne se manifestent pas, et quelqu'un de très intelligent ne se manifeste pas, sauf quand il prend la parole. Ah tiens, celui-là, il parle pour dire quelque chose. C'est énorme dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. Et on voit très bien. Et ils parlent pour s'affirmer, donc pour ne rien dire, par le fait même. Et ils ne voient pas. Il n'y a pas de signification. Il y a que la manifestation. Et s'ils ne parlent pas, ils n'ont pas l'impression d'exister. Ils n'existent qu'en parlant, qu'en s'affirmant. Parce qu'on ne se saisit plus. C'est parce que justement... redonner le sens du travail qualitatif. Et je lui ai fait un petit peu une conférence là-dessus. Et il avait très bien pigé. Il m'a dit, venez visiter mon usine. Et la grande difficulté pour lui, c'était de se maintenir et de maintenir sa qualité de travail face à tous les produits japonais. La rivalité. Donc il fallait maintenir quelque chose. Il avait découvert cette chose qui donnerait un prix. Qui donnerait une valeur particulière à celui qui, quand, puisque il y avait un travail en série, quand l'œuvre où il devra y dire son mot propre, il verra à ce moment-là un défaut qui existe avant. Donner un prix à quelqu'un qui discerne un défaut pour que, au terme, l'œuvre soit parfaite. Le très grand danger, vous le savez bien, dans le travail en série, c'est justement de camoufler les défauts. On camoufle le défaut, et alors c'est le client qui en pâtit. Mais quand ça arrive trop souvent, alors la marque a perdu tout son crédit. Il avait très bien pigé que la seule façon de pouvoir lutter contre une rivalité très puissante, c'était d'avoir un travail qualitatif. Et pour avoir un travail qualitatif, il faut attirer l'attention pour celui qui a uniquement un mot à dire dans le travail. Et donc, lui faire attirer son attention, c'est qu'il découvre s'il y a un défaut. Et s'il découvre le défaut, alors il arrête et va porter la pièce pour montrer le défaut. Et comme c'est lui qui a découvert le défaut, hein, il aura une prime. Et ça fait comprendre comment un travail peut être qualitatif. Il est qualitatif en raison même de l'attention qu'on a pour y mettre ce qu'on doit y mettre. C'est l'attention. Vous voyez, comme au fond là, le travail qualitatif provient d'une qualité invisible. L'attention, c'est invisible. Vous êtes attentif quand vous voulez écouter. Vous êtes attentif quand vous vous appliquez. Vous êtes attentif quand vous appliquez votre intelligence à recevoir. Quand on dort à moitié, on ne fait pas un travail qualitatif. On fait un travail purement matériel, on est présent. Mais on s'endort. Et on risque de s'endormir parce qu'on est trop fatigué. Alors il n'y a plus de travail qualitatif. Vous voyez, c'est redécouvrir la qualité dans un travail en série. Et ça, ça fait comprendre très nettement ce comment la qualité intérieure doit s'incarner dans un travail matériel. Et donc là, vous découvrez le moment de la qualité spirituelle qui doit transformer une œuvre qui doit faire que cette œuvre qualitativement l'emporte sur les autres. La rivalité, c'est ça, c'est d'essayer de trouver la possibilité de l'emporter sur les autres. Et c'est bien une qualité purement spirituelle, être attentif. On peut étudier qu'est-ce que c'est que d'être attentif. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif à un travail qu'on fait? Alors, le danger d'un travail en série, vous savez, puisqu'on doit faire toujours le même geste, et toujours la même chose qui passe devant nous, mais c'est de s'endormir. On est uniquement présent. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Et puis, plus ça va vite, hein, plus ça va. Alors, il faut au contraire découvrir le moment où il y a un défaut. Ça m'a beaucoup appris, ça. C'est très intéressant à voir ça. est très astucieux d'avoir découvert ça. Enfin, c'est très simple philosophiquement. Hein. C'est le passage de la qualité intérieure à la qualité extérieure. Et voyez le passage. Le passage de l'être dans le devenir au niveau du travail. Et la qualité de celui qui est attentif, bon, c'est spirituel ça. C'est purement spirituel. Être attentif à quelqu'un, être à l'écoute. Être attentif au travail qu'on vous demande. Ce travail passe devant vous et vous êtes attentif à l'originalité de ce travail. Alors que quand vous n'êtes plus attentif, oh oui, déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Quand vous lisez l'écriture, déjà vu, déjà vu, déjà lu. Plus aucune attention. Et il faut comprendre que c'est unique. Alors quand c'est unique, l'attention. Et vous découvrez la qualité intérieure et la qualité extérieure. Je crois que la première constatation que le philosophe doit faire, c'est que nous vivons un monde dans lequel les qualités visibles, quand il s'agit de notre univers, sont toujours là. Quand il s'agit d'un monde artificiel, les qualités risquent de disparaître devant le primat de la quantité. Et quand il s'agit de redresser pour que, au-delà de la série, au-delà de cette emprise des qualités, de la quantité sur la qualité, comment arriver à faire cela? Une attention qualitative sur ce qui nous est donné, ce qui nous est présenté, ce qui implique et qui réclame de nous un saut. Ceci est bien, ceci est bon. Oui, une recommandation. Et pour cela, il faut cette attention. Qualité intérieure. Ceci va nous permettre de nous poser qu'est-ce que c'est que la qualité. Puisque c'est un domaine extrêmement vaste. Il y a une diversité étonnante de qualités. Et c'est ce qu'Aristote a très bien saisi dans les catégories. Quand il regarde la qualité catégorie, il voit tout de suite la diversité.